déjà la fin. Ce matin, on travaille très littéraire sur deux grands auteurs du 19e. Et on va commencer avec Balzac, avec M. Quilliou. Comme je l'ai déjà dit à certains d'entre vous, mais peut-être pas à tous, je connais bien M. Quilliou depuis, depuis plus de 10 ans. Et il a été la première personne intéressée, passionnée d'études littéraires par informatique, par ordinateur, que j'ai rencontrée au Japon. Et lorsque je parlais de... J'essayais de faire la promotion de Frantexte ou de Discotexte, chose que certains d'entre vous connaissent peut-être encore. Monsieur Quilliou, lui, exposait la difficulté qu'il avait à se servir de ces outils au travers des institutions japonaises, universitaires principalement. Alors, il faut croire qu'il a quand même réussi à passer au travers de toutes ces difficultés et qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé. Sans doute va-t-il nous en parler un peu plus. Et donc, je lui cède la parole, M. Quilliou. Vous avez 40-45 minutes
Merci. Devant vous. Et bonjour. Et lorsque j'ai appris mon premier mot de français, imperméable, c'était en 1953, j'avais 18 ans. La plupart d'entre vous ne sont pas encore nés, peut-être. Quand je pense à ça, ça me fait tout drôle. Et j'avoue que j'ai du trac. Faire un exposé en français, cela ne m'arrive pas tous les jours. C'est peut-être troisième ou quatrième fois que je fais ça. Surtout devant un public français, pour la plupart, et tous spécialistes de la question, en plus. Et puis, depuis le commencement de ce colloque, plus j'écoute vos exposés, plus je me sens déplacé, un homme arriéré, et même un réactionnaire. Réac, vous dites. Oui. Je ne suis pas français, comme vous le voyez. Je ne suis pas francophone non plus, comme vous l'entendez. Si je parle français, c'est à peine, et avec beaucoup de fautes, toujours. Ce n'est pas une fausse modestie, c'est un élément indispensable de mon exposé. Vous allez voir. Si vous ne me comprenez pas, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Si je ne suis pas francophone, alors pourquoi, à quel titre je suis ici aujourd'hui dans un colloque où la francophonie est un des sujets principaux de... vous vous demanderez. Le travail que je fais depuis plus de 20 ans pourra probablement, sinon justifier, du moins expliquer ma présence ici parmi vous. Je vais donc commencer par un aperçu historique, plutôt préhistorique et autobiographique en même temps. Je divise en trois parties mon exposé. Le passé, le présent et le futur. D'abord, commençons par le passé. Pendant plus de 30 ans, j'ai enseigné dans une université japonaise, université de Saitama, ça s'appelle, une petite université d'État aux environs de Tokyo. J'ai enseigné dans cette université la langue française, la littérature française, la civilisation française aux étudiants japonais avant de prendre ma retraite en 2000. Le travail de prof des lettres étrangères, je crois que c'est partout pareil. C'est tout d'abord expliquer le texte original, français en l'occurrence, le sens des mots et des expressions, expliquer tout cela aux étudiants en leur langue maternelle, japonais. Enfin, traduire, transposer. C'est très important, surtout entre deux langues aussi différentes l'une de l'autre que le français et le japonais. Dans ma toute petite section de français, de civilisation française, 3 ou 4 étudiants par an, tout au plus. Nous étions 3 profs, 2 japonais et 1 français. À ce personnel restreint, on était obligé de faire un peu de tout. En plus de 30 ans, j'ai travaillé de cette façon beaucoup d'écrivains français classiques, depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Depuis Ronsard jusqu'à Claude Simon, en passant par Racine, Molière, Voltaire, Diderot, Hugo, Balzac, Flaubert, Baudelaire, Sartre, Camus, etc. J'ai fait beaucoup de choses. Savez-vous qui était le pire de ces écrivains, celui qui m'a donné le plus de peine? C'est Honoré de Balzac, le grand Balzac. Je vais vous dire pourquoi. Vous me comprenez?
Oui.
Pendant plusieurs années consécutives, j'ai expliqué un roman de Balzac, La peau de chagrin, 1832-33, que je considère comme un des plus importants ouvrages dans l'évolution romanesque de Balzac. Pourtant, j'y rencontrais beaucoup de passages que je ne comprenais pas, beaucoup d'expressions dont le sens m'échappait. Comme d'habitude d'ailleurs. Comme je lisais tout le temps Balzac et écrivais des petits articles sur cet écrivain, je passais aux yeux de mes collègues et de mes étudiants pour un spécialiste de Balzac, c'est-à-dire un balzacien, un grand nom. Dans cette circonstance, il m'était très difficile, pénible, d'avouer que je n'arrivais pas à saisir le sens de telle ou telle expression dans les textes balzaciens, vous comprenez. Et c'est une petite vanité professionnelle. Bref, il me répugnait d'avouer mon incapacité aux élèves. Je vais vous montrer ici un exemple de ces difficultés, un seul parmi les milliers. Je vais montrer donc un des passages que je n'ai pas compris. Mais je vous prie de ne pas rire. Vous blesserez mon amour propre. Livre à vous de penser, pourtant, quoi, tu ne comprends pas une phrase aussi simple et claire? Ça, vous êtes libre. Citation ainsi. C'est là. Ce passage se trouve dans la description d'une soirée, d'une fête chez une jeune femme venue du froid, une russe, belle et coquette, mais qualifiée sans cœur. La comtesse Fedora, cette femme dont le jeune héros du roman Raphaël de Valentin est tombé fou amoureux. Fedora ou la mort, il s'écrit. Vous autres francophones comprenez facilement ce passage, n'y voyant aucun problème, sans même vous arrêter. Oui ? Mais ce... mouvement brisé si doux m'a complètement dérouté et chiffonné, et si vous m'excusez l'expression. Mouvement doux, ça va. Mais cet adjectif participe passé, brisé, qui est pourtant un mot assez commun, banal même, qui veut dire normalement cassé, détruit ou bien des fois fatigué. Mais à cette soirée, Fedra doit être vive et fraîche. Donc, fatigué ne va pas. Comme toujours, j'ai demandé à quelques Français qui se trouvaient à ma portée et que je connaissais. J'ajoute, je dis tout de suite que Patrick Révolard n'était pas encore au Japon. Et j'ai consulté des plus gros dictionnaires. Rien n'a pu me fournir une explication satisfaisante, convaincante. Si les Français du 19e siècle au moins trouvaient une femme fatiguée, plus charmante, plus attirante, plus excitante que quand elle est en forme. Alors là, la traduction en japonais n'est plus possible, car il s'agirait là d'une toute autre sensibilité, toute autre esthétique, différente de la nôtre. Chez nous, une femme fatiguée, on la laisse tranquille pour qu'elle se repose. Probablement, il faudrait mettre une longue note socio-culturelle là-dessus pour les lecteurs japonais. Les Français sont un peuple très spécial, etc., etc. Ou bien, le mot brisé a une toute autre signification spéciale, peu commune, enfin particulière à Balzac. Tellement rare que même les grands dictionnaires n'en font pas mention. Alors, je me suis dit, tiens, Balzac est un écrivain extrêmement prolixe et fécond. Il a écrit énormément de livres, 2 millions de lignes, 240 millions de mots, 1 milliard de lettres. Calcul très, très approximatif. Forcément, il a dû employer la même expression quelque part. Si je pouvais trouver cet autre endroit, tout serait probablement éclairci. Il s'agit seulement de trouver. Ce qu'il nous faudrait, c'est donc une espèce de dictionnaire spécialisé de Balzac, où on puisse rechercher tous les mots utilisés par Balzac avec les indications de leur emplacement. Un dictionnaire qu'on appelle depuis longtemps en anglais la concordance. Depuis déjà très très longtemps, les Anglais avaient la concordance de la Bible, celle de Shakespeare, de Milton, etc. Mais à ma connaissance, il n'existait pas encore en France une chose analogue pour Balzac, pour la comédie humaine. En France, la plus grande base textuelle existante, c'est en 1980, sans aucun doute, le Frantexte de CNRS, INALF, Institut National de la Langue Française, construite pour le trésor de la langue française. Une trentaine de titres de la comédie humaine y étaient déjà enregistrés. Une trentaine. Balzac en a écrit à peu près 90. Cherchons mouvement brisé là-dedans, je me suis dit. Cette base de données textuelles n'est pas publique. C'est-à-dire que, avant tout, mon université devait passer le contrat d'utilisation. Après plusieurs va-et-vient entre la France et le Japon, ça a pris beaucoup de temps. Mon université a eu l'honneur d'être la première contractante de la région asiatique, la première en dehors de l'Europe. L'établissement de la connexion était plutôt compliqué cependant, Internet n'existant pas encore. Deux compagnies de télécommunications françaises et japonaises se transmettent les données par paquet. Un paquet, ça veut dire 60 octets. Ça correspond à peu près à une ligne de la Pléiade. À peu près, oui. Par la ligne téléphonique ordinaire et ensuite à l'utilisateur de chaque côté, de deux côtés. En plus, cela coûtait assez cher. On payait la consultation et la communication aussi en même temps. Frontex est muni d'un excellent moteur de recherche appelé Stella, développé par Dandien. Avec Stella, je pouvais faire des recherches extrêmement souples et variées. La recherche de mouvement brisé en question, que j'ai effectuée tout de suite, n'a cependant rien donné. Aucune occurrence dans ces trentaines de romans de Balzac. La recherche sur la co-occurrence de mouvement et de toutes les formes conjuguées du verbe briser, non plus. Mais il restait encore une soixantaine, deux tiers des romans non encore numérisés, voilà mon espoir. J'ajoute cependant ici que même en cherchant dans toutes, 99 romans, dans toute la comédie humaine et dans ses œuvres de jeunesse que Balzac a qualifiées comme des cochonneries littéraires dans sa lettre, ainsi que dans sa correspondance, l'expression de mouvement brisé n'apparaît qu'une seule et unique fois dans La peau de chagrin, dans le passage tout à l'heure montré. C'est ce que j'ai su plus tard. Une seconde recherche, cette fois non sur Balzac, mais sur ses contemporains. Les romans français écrits entre 1830 et 1850, il y en avait à peu près 40 dans Frontex. Mais ces romans n'ont hélas rien donné non plus. Sur ce résultat ou ce non-résultat le manque de résultat, si vous préférez, était pour moi désespérant et rassurant à la fois. Désespérant parce que je ne savais toujours pas ce que signifiait cette expression. Rassurant parce que la rareté de l'occurrence était pour moi, pour ainsi dire, une excuse, une circonstance atténuante de mon crime d'ignorance. Si je ne comprenais pas, je pourrais être excusé, pardonné, excusable, pardonnable. Vous ne pensez pas? Vous n'êtes pas d'accord? Je me suis enfin décidé de faire ce dictionnaire de Balzac moi-même. Si au XIXe siècle, un Anglais a mis 20 ans pour faire la concordance de Keats. Keats, c'est un poète anglais, ou Keats, c'est peut-être un autre poète, je ne suis pas très sûr. Cet amateur chercheur anglais faisait une fiche pour chaque mot, et cela à la main. Il a mis 20 ans, ça. J'ai cette machine récemment parue, que j'ai achetée tout de suite, un ordinateur personnel extrêmement efficace qui pourrait faire tout pour vous et très rapidement. Tout au plus, 4 ou 5 ans suffiraient largement et puis après je pourrais faire des études littéraires proprement dites. Cette perspective s'est avérée vite trop optimiste. Tout d'abord, la saisie, la numérisation du texte. Ni le scanner, ni la reconnaissance optique des caractères n'étaient pas à la portée des utilisateurs ordinaires. Admirablement courageux, j'ai commencé à taper à la main. Des 10 000 pages de la comédie humaine. J'ai fait un petit calcul. À ce train-là, lorsque tout sera saisi, tapé, j'aurai environ 160 ans. Cependant, la situation s'est vite améliorée. L'apparition du scanner, de l'OCR sur le marché et la disquette, cette grande invention vraiment révolutionnaire. À cette époque-là, l'ère des bandes de papier perforé était certes révolue, Mais en attendant l'avènement des disquettes, on enregistrait sur des cassettes audio, cassettes pour enregistrer la musique, des sons que produisent les 0 et les 1. On appelait cela la musique binaire. Et le disque dur, on n'y pensait pas. Quelques-uns de mes étudiants se sont proposés pour faire du travail de scanning ou scannage, je ne sais pas. Scanning. L'État m'a donné une modique subvention. Ainsi, 2 ans après, un beau matin, toute la comédie humaine était bel et bien enregistrée sur quelques dizaines de disquettes. Dieu soit loué, dirait Balzac. Ici une bonne nouvelle pour le mouvement brisé. En relisant un roman pour réviser les pages scannées, j'ai rencontré par hasard un passage qui serait probablement révélateur pour résoudre le problème. Et voilà. Pas d'accord. Qu'en pensez-vous? Ce passage se trouve dans Béatrix. Balzac y parle d'un des personnages principaux de son roman, Félicité des Touches, une femme écrivain célèbre, intègre, mais pas toujours heureuse côté sentiment. Balzac a dû penser à Madame de Staël quand il a créé ce personnage. Ce qui est brisé donc dans le mouvement de Phèdre, c'est donc la rigidité, la dureté particulière aux hommes. Ce mouvement doit être très féminin, souple, gracieux, déhanché, lascif, sans doute, et cela n'a rien à voir avec la fatigue physique. Je vois que vous n'êtes pas tous d'accord avec mon interprétation. Oui? Non? Oui, tant pis, ça n'a pas d'importance. Mais le problème m'a semblé ainsi résolu. J'ai expliqué le passage calmement, avec confiance aux étudiants. En tout cas, rappelez-vous ici que tout a commencé par mon français incomplet, par les lacunes de ma connaissance, ou plus exactement, la prise de conscience de cet état. Pour m'embarquer dans l'aventure insensée de la concordance de Balzac, j'avais un prédécesseur et un ami, à qui je dois la reconnaissance sincère. Un prédécesseur, un professeur suédois, Gunnar Engvall, qui a étudié le vocabulaire des romans français des années 1960. La concordance, c'est une dame, elle l'attachait à son livre sous la forme des centaines de micro-fiches. Les disquettes n'existaient pas encore. En ce qui concerne la forme extérieure de la concordance, je dois presque tout à cet éminent professeur, que je n'ai pas encore le plaisir de connaître. Un ami, Étienne Brunet, que nous connaissons tous, qui nous a abandonné hier, entreprenait à écrire un logiciel pour faire une concordance virtuelle qu'il a baptisée plus tard Hyperbase, vous connaissez. Et j'ai compris auprès de lui comment m'y prendre. Je lui ai fourni le texte numérisé de ma comédie humaine. Comme ça, je l'ai un peu aidé, mais il m'a beaucoup aidé. Bon. Je dois souligner ici que mon travail est conçu pour être un outil pour chercher dans cette immensité des pages imprimées Il est donc subordonné toujours à l'édition imprimée sur papier. Ainsi, avant même de commencer à numériser, la première chose que j'ai dû faire, c'est choisir l'édition de la Comédie humaine. Là, il en existait 5 ou 6. La plupart des chercheurs et étudiants utilisaient et utilisent encore les 12 volumes de la bibliothèque de la Pléiade de chez Gallimard. Je n'avais donc autre choix. Tu peux montrer le site de la maison. Je vais vous montrer le format de la ligne que j'ai adopté. Je vais expliquer peut-être la page d'accueil.
Je la trouve.
Oui, c'est là, oui. Il y a ici, c'est la page d'accueil de la maison de Balzac. Ici, c'est ça, oui. L'index du vocabulaire de Balzac établi par Kazuo Kiryu, Japon. Bon, cliquez ici, oui. Je ne peux pas lire. Mon adresse est très difficile. D'accord, oui. Et pour la Comédie humaine, je vais appeler ça le tome. Le tome 1, ça va du tome 1 jusqu'au tome.
C'est nous ?
C'est là, oui. 98. Chaque tome contient à peu près 20 000 lignes. Et puis j'ai mis aussi œuvres diverses, contes dramatiques, correspondances, théâtre aussi. Oui, cliquez n'importe où, voilà. Oui.
Ça va.
Oui, c'est le PDF, ça prend un peu de temps. Hein? Je vais vous montrer la première page. Pour les autres pages, ça va. Oui, c'est là. On peut mettre un peu mise au point. C'est un peu flou. Oui, ça va mieux. Merci. Donc, ici, c'est le capote, c'est le mot clé. Là, ici, le contexte qui précède le mot. Et puis, le contexte qui suit. Et vous pouvez lire ça, là. F30, ça veut dire la femme de 30 ans. 2, c'est le
chapitre.
Non, c'est le tome de la Pléiade. Donc il y a. Et ensuite, la page, page 1206. Et 37, c'est. Et ce passage se trouve à la 37e ligne de la page. Donc, il y a tout ici, l'information. Qu'est-ce que j'ai dit encore? En tout, à peu près 100. Je crois que c'est à peu près 100 ou 110, je crois pas, le caractère. Comme ça, oui, je vous ai dit tout à l'heure, ma concordance est subordonnée toujours à l'édition imprimée sur papier. C'est pour chercher dans l'édition imprimée. Ah oui. Et je n'ai pas indexé tous les mots, bien sûr. Et j'ai exclu quelques mots très banals. D'abord, deux verbes, être et avoir, et des mots grammaticaux comme les articles, les pronoms, et puis quelques prépositions comme sur, sous, pas sous pour sous, il faut dire une chose, c'est-à-dire question de homographie. Homographe, dites, je sais pas. Sous préposition, je l'exclus. Mais sous pluriel du nom sous SOU, il ne faut pas exclure. Hein? Ça c'est un problème. Et quelques conjugaisons, quelques interjections. A, O, ça. Reste la programmation, car je n'ai pas voulu me servir de ce fameux OCP. Vous le connaissez sans doute, Oxford Concordance Program, qui était descendu alors au niveau de l'ordinateur personnel. J'ai essayé deux ou trois langages de programmation, écrit moi-même deux ou trois petits logiciels, et c'était suffisant. La concordance de la comédie humaine, première version, en texte simple, Et enfin achevé, en 250 disquettes. C'était 1985. J'ai distribué la concordance à ceux des amis japonais et français qui en voulaient gratuitement, des frais de la fabrication exceptés. J'en ai fait don à la maison de Balzac, musée appartenant à la municipalité de Paris. J'ai envoyé par la poste une boîte contenant ces 250 disquettes. Le bibliothécaire de la maison de Balzac a eu beaucoup de mal à leur faire passer la douane française, paraît-il. On a pu pendant quelques années consulter ces données par un ordinateur installé à la bibliothèque de la maison de Balzac. Bientôt, Internet arrive, enfin. La seconde version de la concordance a été considérablement augmentée avec les comptes droitiques et à la correspondance. Les comptes droitiques sont dans le 12e volume de la Pléiade. La correspondance, 5 volumes, Garnier, frère. Et des lettres à Madame Aska, sa future épouse. 4 tomes, je crois, de l'édition du Delta. Format du texte, cette fois-ci, HTML. Support, CD-ROM. Un seul. Enfin, la troisième version, la troisième version vient. Les premiers romans, cochonneries littéraires, les œuvres diverses, deux volumes dans la Pléiade, et les pièces de théâtre ajoutées. Les pièces de théâtre sont dans l'édition de bibliophile de l'original, je crois. Format de texte PDF, liste de publications, site de la maison de Balzac. Une de mes amies française, Nicole Moset, balzacienne bien connue, a eu la bonne idée de parler de mon travail au conservateur de la maison de Balzac, Yves Gagneux, qui a eu la bonté et la générosité d'accepter et de publier en 2003 sur son site ce qu'un obscur professeur étranger a confectionné à l'autre bout du monde. Je ne sais comment exprimer ma gratitude. J'admire cet esprit éminemment ouvert qui a été et sera toujours l'apanage des Français. Voilà, nous sommes rapidement revenus au présent et vous connaissez maintenant 20 ans de ma vie. vous me demanderez probablement pourquoi je n'ai pas commercialisé ma concordance, puisque j'ai dépensé pas mal de temps, sans parler de l'argent. J'avais deux raisons. D'abord, s'il y avait la possibilité de gagner des millions, une fortune colossale en commercialisant, je l'aurais volontiers fait. Or, ce n'est pas le cas.
Donc, vous avez fait une étude de marché.
Oui, un peu, oui. Ensuite, j'entrevoyais vaguement des problèmes juridiques à craindre. Tous les écrits de Balzac sont bien entendu dans le domaine public. Mais puisque j'utilise une édition spécifique, la Pléiade, et adopte la pagination, la mise en page de cette édition, pour qu'on puisse s'y référer directement, cela pouvait léser le droit d'édition, empêcher de lèse Gallimard. Gallimard peut ne pas beaucoup aimer ça. Je ne voulais pas finir mes jours dans la prison française, quoique j'adore vivre en France, ni payer une amende pour le travail où je n'ai pas gagné un centime. La seule mais grande récompense de ma bonne action, parce que j'ai donné, la récompense que j'ai eue, c'est l'expression chaleureuse de la solidarité et de la reconnaissance de la part du monde des études balzaciennes à mon adresse, que je publie sur le même site. Je reçois plein de courriers de la part des chercheurs ayant mal retrouvé une citation mal retenue, des étudiants préparant leur thèse, des Balzaciens en herbe. Bon, j'ai fini le passé. Passons ensuite au présent. Tout à l'heure, j'ai parlé de Stella, moteur de recherche intégré en Frontex. Toute base de données a son moteur de recherche qui lui est propre. Les fonctionnalités et les modalités de l'utilisation sont plus ou moins différentes les uns des autres, selon les bases. Il existe aussi des moteurs de recherche indépendants de données et plus adaptés à l'usage universel. Un exemple, l'hyperbase de Étienne Brunet. Hyperbase peut produire, à partir du texte saisi suivant quelques règles, concordance statistique et graphique aussi. Pour moi, ce que produisent Stella et Hyperbase, c'est la concordance implicite et virtuelle qui peut produire seulement la partie de concordance dont vous avez besoin. La concordance n'existe pas si vous ne faites pas la recherche. Par contre, ce que j'ai fait est plus classique. Ce que j'ai fait est explicité. Je ne sais pas si c'est un mot français. Oui ? Explicité. Toute la concordance est déjà là, claire et explicite, avant même la recherche. L'un est en puissance, l'autre en acte, si on peut dire. Du point de vue de la technicité, la concordance virtuelle est beaucoup plus avancée, sophistiquée, raffinée, et s'adapte mieux à l'exigence de ceux qui le consultent. La concordance en acte explicite a pourtant son mérite, bien que arriéré. D'abord, les lecteurs de Balzac, quoique la plupart utilisent quotidiennement Internet, traitement de texte et email, sont pour la plupart adeptes du papier imprimé. Ils aiment que les résultats paraissent noirs sur blanc, tout prêt à être lu. Ils n'ont pas cette habitude de manier le logiciel, manier quelques dizaines de commandes de Stella ou de Hyperbase. Tout au moins, il leur faut un certain apprentissage. Les touches du clavier leur font parfois peur, et le jargon électronique et informatique aussi. Pour eux, j'aurais bien voulu imprimer toutes mes données sur papier, mais c'était chose impossible, car cela donnerait pour la seule comédie humaine 2 mètres de feuilles entassées. De là la concordance explicite, de là le PDF. S'ils savent utiliser quelques navigateurs de l'Internet, Netscape ou Internet Explorer, ou Firefox, Safari, aucun problème. Et puis, la concordance virtuelle demande à son utilisateur de savoir ce qu'il cherche. Je vous montre quelques exemples, bon, un seul exemple. Tu peux aller au tome 21. Dans la comédie humaine, il y a un personnage qui s'appelle Contenson. C'est un espion. Un personnage de peu d'importance. Un espion. Contenson. Tu peux chercher Contenson, s'il te plaît.
Non, plus haut.
Non, Contenson. Oh, bon, plus bas.
Plus bas.
Oui, plus bas.
Ça bouge lentement.
Tu peux utiliser l'ascenseur. C'est plus vite.
C'est sous PDF, ça?
Oui.
C'est une fonction
sur la gauche.
C'est la gauche, oui, il y a... Tout ça, c'est la maison de Balzac qui a fait pour moi. C'est signé. Contenson, ça doit être trouvé... Contenson, par la trouvé, ça. Ah oui. Mais c'est là, c'est un défaut du PDF. C'est toujours là.
On va y arriver, non?
Ouais. Je ne fais pas la démonstration parce que c'est public, que vous pouvez consulter comme vous voulez. Continue. Non, plus bas. C'est lui. Tu es au contenu.
C'est
après. Contenu, c'est un autre rubrique. Parce que c'est ici, c'est la verre. C'est le verre. Contenu. Oui, voilà. Si, il y a beaucoup de l'occurrence ici.
Il est arrivé, donc maintenant on peut circuler librement.
Oui, c'est la contention. Quand même, il y a beaucoup de l'occurrence. Vous voyez, on peut chercher contention par la concordance virtuelle, bien sûr. Mais si on descend un peu plus bas, s'il vous plaît, à la fin. À la fin du contenson. Ouh. Bon. Vous voyez ici. Non, il y a 6 occurrences qui ne sont pas normales. Gondanson. C'est un personnage qui parle, un personnage que vous connaissez, Baron de Nucingen.
De Nucingen, c'est une déformation de Nucingen.
Oui, oui. Alors, tous ces occurrences-là, de 6 pour Pontarson, vous ne pouvez pas chercher dans la concordance virtuelle. Puisque c'est explicite, et puisque c'est révisé à la vue, vous trouvez ici avec Pontarson. Écriture normale.
Vous voyez, j'ai préparé encore plusieurs exemples, mais j'ai plus le temps.
C'est la valeur ajoutée. On les mettra dans la version finale.
Où on en est ? Oui. Pour moi, le format PDF est un compromis. C'était clair comme un livre imprimé. Le PDF que j'ai adopté finalement est, comme vous savez tous, très près du papier imprimé, car il veut électroniquement simuler les pages imprimées. Élevé dès l'enfance uniquement par la lecture des livres imprimés, et bien que le clavier ne me fasse plus peur, je dois avouer que je suis dans le camp de ces lecteurs arriérés. Le texte électronique, quel que soit son format, me semble toujours instable, précaire, une fois mis sur Internet. Car sur ce réseau immense qui n'est contrôlé par personne, où règne l'anonymat, où grouillent des vers mal intentionnés, rien n'est plus facile que de modifier le texte sans que son auteur ne le sache. Alors que les livres imprimé une fois pour toutes, reste toujours comme tel inchangé. Bon, maintenant, à la dernière partie, future. Je vais parler un peu de la conservation des œuvres littéraires et de la pérennité du support. Et d'ailleurs, Henri Béard en a parlé, je le suis. N'avons-nous pas tous les doux souvenirs de la bibliothèque de nos grands-pères ? Certes, le papier y est jauni, l'odeur de moisissure, les couvertures frottées, salies et abîmées, des passages soulignés au crayon, des inscriptions dans les marges, parfois le brouillon d'une lettre d'amour oubliée entre les pages.
Ah, c'est
votre grand-père. Ah. Combien nous n'avons pas aimé y fouiller à la recherche d'un trésor caché. Un ingénieur de chaises, un fabricant de CD, m'a déclaré un jour « Nous pensons pouvoir garantir la qualité de nos CD, c'est-à-dire leur lisibilité, pour 10 ans, pas plus. » Bien sûr, cela peut durer 20 ans, 30 ans, mais garantie seulement 10 ans. Pour le DVD, c'est la même chose. Si par le progrès technique, ça dure un siècle dans l'avenir, ce sera la même chose. Car tous les 10 ans ou tous les 100 ans, on devra faire régulièrement les duplicata ou transférer au nouveau support. Du duplicata en duplicata, la qualité ne se détériorera pas, certes. Mais il s'agit de savoir qui s'en occupera. Est-ce que nos petits-enfants auront leur petite bibliothèque de grand-père ? Si un ouvrage littéraire est jugé sans valeur à un moment donné, et si bien qu'il ne vaut pas la peine d'être transmis à la postérité, il disparaîtrait complètement sans laisser de traces, irrécupérable. Pourtant, dans l'histoire de la littérature, il ne manque pas de ces exemples de redécouverte, réévaluation faite dans un coin obscur et poussiéreux des bibliothèques. Édition électronique, oui, d'accord. Littérature en ligne, oui, et bravo. Et création collective, d'accord. Mais aujourd'hui encore, on voit plein de gens qui ouvrent leurs livres imprimés sur papier, sur la terrasse d'un café, sur une chaise dans le jardin public. Il existe des portail qui distribue pour le PDA et même pour le téléphone portable des romans populaires comme le divertissement dans le métro. Mais peut-on lire jusqu'au bout sur ce petit écran des gros chefs-d'œuvre classiques comme Illusion perdue ou À la recherche du temps perdu? Moi, personnellement, je ne pourrais, certainement. Et après avoir lu, il, c'est-à-dire ce lecteur de l'édition électronique, il efface le texte, le tout le texte, pour télécharger un autre. Donc, rien pour petits-enfants. Regardez ce château de Cerisy, qui est très bien conservé physiquement et humainement, avec amour, pendant des années et des années. Ne pourrons-nous pas faire de même pour nos chères œuvres littéraires? J'aurais bien voulu clore mon exposé par une perspective en rose, mais tant pis, je vois l'avenir à travers une brume grisâtre. J'attends sincèrement une grande invention qui remplacerait le papier et l'imprimerie. Ces deux grandes inventions-là sont suffisamment vieilles. Il nous est permis d'espérer l'apparition d'un nouveau support et en plus d'une humanité meilleure. Voilà, merci. Un petit mot encore. À vos questions, je ne répondrai que si je les comprends. Je comprends plus mal le français que je ne le parle. Quant à vos suggestions et commentaires, c'est bienvenu. Je ferai tout simplement semblant de comprendre.
Alors, allons-y. Henri Béard.
Oui, je pense que tout le monde aura apprécié l'humour de cette narration. Simplement, juste un tout petit point de détail sur la tradition des concordances. Nous avons un travail de Mohamed Sekraoui, assez ancien, qui a fait l'historique de tout cela, et je ne pense pas que ce soit Oxford qui soit le premier. Il y a une tradition aussi latine des concordances de la Bible, et en français on a des concordances depuis très longtemps. La preuve, Hubert de Falaise qui existe, Michel Bernard l'avait rappelé, au XVIIe siècle avec les concordanciers. Bon, c'est une petite... Mais c'est important quand même pour savoir que cette tradition n'est pas d'origine anglo-saxonne pour nous. Pour la littérature française, il y a des concordances aussi depuis très longtemps. Ça ne change rien à votre travail et à tout l'investissement.
Pardon, c'était les premières à l'ordinateur.
La concordance de Shakespeare, c'est une concordance papier. Hein. Mais on a eu de la même façon toute une tradition de concordance. Mm-hmm. Ce qui est intéressant quand même, parce que ça met une perspective des études littéraires aidées par un certain nombre d'outils. Parce que finalement, c'est un peu ce que nous faisons. Nous essayons d'avoir des outils qui puissent aider tout ce que vous nous avez montré. Les exemples, le point de départ de votre démarche, c'est au fond comment comprendre la littérature française et avec quels outils, donc par exemple un concordancier. Et vous avez fait un concordancier numérique, mais vous auriez pu aussi, vous avez dit, commencer par un concordancier papier. Voilà. Bon, c'est juste une petite, un petit détail. Mais finalement, comment comprenez-vous la ligne, le mouvement brisé?
C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le mouvement brisé. Je ne sais pas comment exprimer le mouvement brisé. J'imagine un peu. Peut-être c'est la même chose que vous représentez dans. C'est la même chose, je crois, mais je ne peux pas m'exprimer. C'est un mouvement très féminin.
On le remet.
En amont.
Non, mais moi, je voulais avoir la suite.
La suite? Ah, non, je ne veux pas le laisser.
Parce que, non, mais il ne suffit pas de mettre les contextes. Nous, si j'ai posé cette question, c'est parce que nous nous livrons à ce genre d'exercice en permanence dans les Hubert de Falaise. On rapproche, on fait des... on reprend toutes les concordances dans les autres romans, dans les autres textes, etc. Mais il faut bien... Il y a un moment où on donne quand même une interprétation plus ou moins personnelle.
Ouais. Et vous n'êtes pas d'accord avec la mienne?
Pas du tout. Mais pas du tout, c'est simplement j'aimerais l'entendre en mots courants.
Non. Vous me donnerez votre interprétation plus tard, s'il vous plaît.
Alors, au suivant, je
vois.
Claude.
Comment avez-vous fait pour les coquilles, même dans la Pléiade?
Il y a pour les coquilles, il y a des problèmes. Au moins, on peut distinguer trois sortes de coquilles. Coquilles d'impression, coquilles de l'édition originale et coquilles de Balzac aussi. Oui. Et pour les coquilles faites par Balzac, je n'ai pas corrigé. Mais pour les autres, deux autres, j'ai révisé le texte. En révisant le texte, j'ai rectifié de mon possible.
Avec une autre édition?
Avec une autre édition, parfois, oui.
C'est un peu de fou.
Ah oui.
Au moins... On est sûr de la fiabilité du texte. On en a parlé plusieurs fois déjà. Parmi les textes qui sont sur Internet, qui sont parfois préparés avec amour par des personnes et dans lesquels on trouve des coquilles dès la première ou la deuxième page, la fiabilité en prend un coup. Là, au moins, on a une assurance et on souhaiterait que les autres en fassent autant.
Donc, c'est la Pléiade révisée.
Oui. Oui, c'est ça, oui.
Pendant plus de 10 ans.
Voilà. Mais en fait, c'est très difficile de distinguer ces trois coquilles, si vous voulez. Faute d'impression ou bien faute d'écriture. Parfois, c'est très difficile. Quand on n'a pas les manuscrits.
Oui. L'imprimeur en a fait beaucoup.
Ah oui.
Henri Béat.
Et puisque vous avez évoqué des problèmes juridiques, vos craintes, etc., pourquoi n'avez-vous pas fait votre édition en fonction de ce que vous venez de nous dire, les corrections que vous avez apportées, etc.? Pourquoi n'avez-vous pas fait l'édition Kiryu comme on a l'édition Bonnard ou l'édition...
Sur Internet?
Oui.
Je n'ai pas mon site. C'est pour ça. Après avoir quitté l'université, je n'ai pas le moyen non plus.
Ce sont des choix. Vous avez fait des choix. Ne dites pas que c'est par modestie, c'est parce que vous aviez opté pour une autre formule.
Parce que la maison de Balzac, c'est quand même un des centres de recherche de Balzac.
C'est bien logé.
Si je publie sur mon site, personne ne visiterait, personne ne le verrait, ce serait peu de personnes. Alors que le site de Maison de Balzac est très, très très visité.
Michel Bernard?
Oui, à propos des échanges là, qui viennent d'être faits, je voudrais insister sur la qualité d'un travail comme celui de M. Kiryu. Parce que dans le domaine des concordances, on a parfois des choses entièrement automatiques. Et il nous a montré cet exemple qui était tout à fait éclairant du nom de personnage qu'il avait lématisé en quelque sorte, puisqu'il était allé rechercher d'autres prononciations du nom de personnage. Et c'est toujours très intéressant d'avoir cette valeur ajoutée par rapport à une sortie purement automatique. On en a beaucoup, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus rapide à faire. Mais là on a vraiment un outil littéraire qui est bien supérieur, puisqu'il a été revu à la main par un spécialiste. Et on peut retrouver des choses. Alors, on peut même imaginer plus, hein, il pourrait y avoir des liens entre. Il pourrait y avoir une table des personnages, il pourrait y avoir. Mais bon, après, c'est aussi à la communauté des chercheurs de produire un outil. Alors, je crois que la meilleure solution, c'est celle qu'il a adoptée, finalement, c'est une sortie automatique retouchée à la main. Alors, c'est souvent ce qui donne les meilleurs résultats, parce qu'il y a évidemment tout un travail qui doit être fait par la machine, qui serait inutile de faire à la main, mais ensuite, il est indispensable de revoir à la main ces sorties qui ne sont jamais parfaites de toute façon. Hein. Alors ça permet aussi de revoir les textes, et c'est un vrai travail d'édition critique qui a été fait de ce point de vue. Je voudrais aussi insister sur ce point, peut-être que la communication suivante le mettra aussi en évidence, c'est que ça revient sur une idée reçue, c'est que les éditions électroniques sont souvent meilleures que les éditions papier. Elles sont meilleures d'abord parce que elles peuvent être revues à la main, ensuite parce qu'on dispose d'outils. Vous savez, il y a ce travail qu'ont fait tous les éditeurs critiques depuis les débuts de l'édition critique, c'est-à-dire sans doute depuis les Massorettes, c'est-à-dire de faire de la collation. La collation, c'est pas le repas qui nous attend, mais c'est le fait de comparer deux textes pour relever les variantes. C'est un travail très compliqué. Travail d'abord très, très ennuyeux. Les chartistes, depuis des années, sont préparés à faire ce travail. Mais surtout, c'est un travail qui donne lieu à beaucoup d'erreurs. Et avec l'informatique, on a les moyens de faire beaucoup moins d'erreurs. Exemple personnel, l'édition de Lautréamont, on l'a vérifié, a permis de relever plus de variantes entre les éditions, en particulier des toutes petites variantes de ponctuation, que dans les travaux qui avaient été faits précédemment. Ce qui fait que là aussi, mais ça permet de revenir sur cette idée reçue, c'est que souvent on a un meilleur résultat sur l'écran. Autre avantage, c'est que si on découvre une erreur, ou si une erreur est signalée par un lecteur, on peut la corriger immédiatement, et le lecteur suivant bénéficiera de cette correction. Alors qu'il y a des erreurs connues dans de grandes éditions qui sont publiées depuis longtemps, mais elles n'ont jamais été corrigées parce qu'il n'y a pas eu de réédition.
Michel Lemaire.
Oui, je voudrais revenir sur l'information de M. Bernard quand il dit que les éditions électroniques sont souvent meilleures que les éditions papier. Personnellement, ça m'étonnerait beaucoup. Pour faire comme ça une comparaison électronique, il faut, j'ai vu une édition critique moi aussi. Pour faire une comparaison électronique, il faut avoir toutes les éditions de notre texte pour pouvoir les comparer. Et le cas de la Lautréamont, au contraire, me semble unique ou très rare. Et je pense que la plupart des textes qui ont été mis en ligne, sauf votre Lautréamont, sauf le travail de M. Bourdieu, il n'y a plus un seul texte, on l'a copié ou on l'a scanné, on l'a plus ou moins corrigé, mais il y a pas de travail.
En fait, je corrige ce que je disais, une édition électronique peut être meilleure. Les outils pour qu'elle soit meilleure, mais c'est vrai que le pire est aussi malheureusement.
Le scanner non corrigé, elle le sera. Et l'ordinateur, c'est l'avenir de l'édition critique. Et quand moi je faisais mon édition critique, j'ai comme ça fait tout à la main. Et je pensais que dans 10 ans ou 20 ans, on ne comprendrait même pas la minutie de regarder comme ça deux feuilles de papier pour chercher les virgules et distinguer les virgules des petites taches sur le papier. Alors on ne comprendra pas cela dans le futur, bien sûr. Mais actuellement,
pour l'autre amont, il y a une édition anastatique à la table ronde, hein, les originales.
Ah oui, c'est une solution. Oui, mais ce n'est pas une édition critique.
Non, pas du tout ça.
Henri Béard.
Mais je ne veux pas demander à M. Thierry s'il connaît les conséquences de ses travaux à lui. Est-ce qu'il y a une suite, puisque c'est ouvert, vous avez choisi, vous avez dit que vous n'avez pas voulu faire votre propre site, mais est-ce que vous savez ce que font les utilisateurs de votre...
Oui, j'ai déjà lu plusieurs articles où est citée ma concordance. Ça fait partie de ma...
Et vous êtes satisfait des
produits? Oui, absolument. Parce que moi-même, j'aurais voulu faire des recherches moi-même, mais je n'ai plus le temps. Je laisse aux autres de faire pour moi.
Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va faire une petite pause jusqu'à 11h moins le quart. Et